Chapitre 17. Le luminophone. Sise dans un quartier semi-huppé de Terminus, la résidence d'Ebling-Miss était régulièrement fréquentée par les membres de l'intelligentsia, par les érudits de tout poil, et plus généralement, par tout ce que la Fondation pouvait compter de gens cultivés. Curieusement, ces caractéristiques semblaient justement dépendre, en toute subjectivité, de la culture des visiteurs. Pour un biographe un peu philosophe, cette maison n'était autre que le symbole d'un refus de la réalité extra-intellectuelle. Un chroniqueur mondain décrivait en termes suaves l'atmosphère terriblement masculine de désordre qui y régnait. Un docteur en philosophie de l'université parlait plus brutalement d'un tas de bouquins mal rangés. Un ami qui n'était pas de l'université disait « Il y a toujours de quoi boire et on peut poser les pieds sur le divan ». Et un reporter qui avait le goût des épithètes parlait d'une bonne vieille baraque, solidement plantée sur un bon gros tas de cailloux, bien à l'image de son gauchiste de propriétaire, furieux blasphémateur devant la galaxie, et par ailleurs sujet à la calvitie précoce. Aux yeux de Beïta, qui pour l'instant n'avait d'autre public qu'elle-même et avait l'avantage de recueillir ses informations de première main, la résidence d'Ebling-Miss paraissait simplement mal tenue. À l'exception des tout premiers jours, son emprisonnement ne lui avait guère pesé. Beaucoup moins, trouvait-elle, que cette demi-heure d'attente chez le psychologue, où on l'avait peut-être observée à son insu, qui sait. Jusqu'alors, elle avait du moins toujours été avec Thoran. Peut-être se serait-elle permis de succomber plus vite à cette tension de tous les instants, si elle n'avait vu le long nez de Magnifico plonger davantage d'heure en heure entre les genoux de son propriétaire, dans une attitude qui montrait clairement que le clown était encore plus inquiet qu'elle-même. Les grandes jambes maigres de Magnifico étaient repliées sous son menton en galoche, comme s'il essayait de se faire tout petit, le plus petit possible, jusqu'à disparaître. Beïta tendit la main dans un geste doux et machinal de réconfort. Magnifico tressaillit, puis se mit à sourire. « On dirait, gente dame, que mon corps persiste à nier l'expérience de mon esprit et s'attend, encore et toujours, à recevoir des coups. » « Inutile de t'inquiéter comme ça, Magnifico. Je suis là, et je ne laisserai personne te faire du mal. » Le clown lui jeta un regard en coulisses, puis détourna rapidement les yeux. Mais ils sont déjà parvenus à m'éloigner de vous et de votre charitable époux. Et, ma parole, vous pouvez rire, mais je me suis senti bien seul à ce moment-là. Je n'ai nulle envie de rire, crois-moi. Moi aussi, je me suis senti bien seul à ce moment-là. Le visage du clown s'éclaira, et il n'en serra que davantage ses deux genoux entre ses bras. « Vous n'avez jamais vu cet homme qui va nous recevoir ?» demanda-t-il prudemment. « Non. Mais c'est un homme connu. Je l'ai vu aux actualités, et j'ai beaucoup entendu parler de lui. Je crois que c'est un brave homme, Magnifico, qui ne nous veut pas de mal. « Ah oui ?» demanda le clown. « Cela se peut, gente dame. Mais il m'a déjà interrogé. Et il est d'une brusquerie, il parle fort, il me fait peur. Il emploie des mots étranges, si bien que les réponses à ses questions n'ont pas pu franchir mes lèvres. J'en viendrais presque à croire le plaisantin qui s'est bien moqué de moi un jour et de mon ignorance en me racontant qu'en de tels moments, le cœur nous remonte jusque dans la gorge et nous empêche de parler. Mais cette fois c'est différent. Nous sommes deux contre lui cette fois, et il ne parviendra pas à nous effrayer tous les deux, n'est-ce pas ? Non, gente dame. Une porte claqua quelque part, et l'on entendit une voix tonner dans la maison. Juste derrière la porte, la voix éclata, criant « Par la galaxie, foutez-moi le camp, foutu crétin !» Et, par la porte qui s'ouvrait, on aperçut brièvement deux gardes qui battaient en retraite. Ebling-Miss entra, l'air soucieux, déposa par terre un paquet soigneusement enveloppé et s'approcha pour serrer négligemment la main de Beïta. Celle-ci lui rendit sa poignée de main vigoureusement, comme un homme. Miss s'aperçut enfin de la présence du clown, mais il reporta aussitôt son attention sur Beïta.
« Marié ?»«
Sans qui, Miss ?»«
Oui. » »«
Nous avons rempli les formalités légales. » »«
Heureuse ?»
ajouta Miss après un court silence. « Jusqu'à maintenant. » Miss haussa les épaules et se tourna vers Magnifico. Il se mit à défaire le paquet.
« Tu sais ce que c'est que ça, mon garçon ?»
Magnifico jaillit littéralement de son siège et s'empara aussitôt de l'instrument. Il se mit à manipuler les innombrables boutons avec une joie évidente, en exécutant aussitôt une gigue endiablée, menaçant de destruction imminente le mobilier avoisinant.
« Un luminophone !» balbutia-t-il, « et d'une facture propre à réveiller les morts et à leur emplir le cœur d'allégresse !»
Ses longs doigts caressaient doucement l'appareil, pressant légèrement les contacts, s'arrêtant sur une touche, puis sur une autre. Bientôt, dans l'air devant eux, apparut une douce lueur rose, très exactement dans la limite du champ visuel des spectateurs présents.
« Allons, mon garçon !» dit Ebling Miss. « Tu as dit que tu pourrais faire marcher un de ces appareils, en voilà l'occasion. Mais tu ferais mieux de l'accorder. Il sort d'un musée. »
Puis il ajouta à l'adresse de Beïta,
« Pour autant que je sache, personne dans la fondation n'est capable de le faire marcher. »
Il se pencha plus près et dit précipitamment,
« Le clown ne parlera pas sans vous. Voulez-vous m'aider ?»
Elle acquiesça.
« Bon, » dit-il. Sa peur est presque dissipée, et je doute que son énergie mentale supporte un sondage psychique. Si je veux tirer quelque chose de lui par d'autres moyens, il doit se sentir absolument à l'aise. Vous comprenez ?
De nouveau à la Chiesa.
Ce luminophone n'est qu'un prétexte. Il dit qu'il sait en jouer, et sa réaction montre clairement que c'est une des grandes joies de son existence, alors qu'il joue bien ou mal. Ayez l'air intéressé, ayez l'air d'approuver, et puis manifestez-moi de l'amitié, de la confiance. Avant tout, conformez-vous à mon attitude. »
Il jeta un rapide coup d'œil à Magnifico, pelotonné sur un coin du divan, occupé à de rapides réglages sur l'instrument. Le clown était complètement absorbé.
« Avez-vous déjà entendu jouer du luminophone ?»
demanda Miss à Beïta sur le ton de la conversation.
« Une fois. »
répondit Beïta sur le même ton. « À un concert d'instruments anciens.
Ça ne m'a pas fait grande impression, à vrai dire. Vous n'avez pas dû tomber sur un bon exécutant, ils sont vraiment très rares. Ce n'est pas tant que l'instrument exige une bonne coordination musculaire. Un piano à plusieurs claviers en réclame davantage, par exemple. Mais plutôt une certaine liberté d'esprit.
C'est pourquoi, reprit-il en baissant la voix, notre ami le squelette ambulant pourrait être meilleur que nous le pensons. Le plus souvent, les bons joueurs sont idiots. Encore un de ces étranges phénomènes qui donnent tout son intérêt à la psychologie. »
Il ajouta dans un effort manifeste pour entretenir une conversation qui devenait de plus en plus superficielle.
« Vous savez comment fonctionne cet instrument ? Je l'ai examiné et d'après ce que j'ai pu comprendre pour le moment, les radiations qu'il émet stimulent directement le centre de la vision, à l'intérieur même du cerveau, sans jamais exciter le nerf optique proprement dit. C'est en fait l'utilisation d'un sens que, normalement, on ne rencontre jamais dans la nature. Quand on y pense, c'est assez remarquable. Les sons qui vous parviennent sont des plus ordinaires. Ils passent par le tympan, la cochlée, etc. Mais, chut, il est prêt. Éteignez, voulez-vous, cela fonctionne mieux dans le noir. »
L'obscurité se fit. Magnifico n'était plus qu'une tache de couleur incertaine aux contours imprécis, et Bling Miss une masse sombre d'où émanait un souffle rauque. Beïta se surprit à écarquiller les yeux, tout d'abord en vain. Puis, un léger frémissement parcourut l'atmosphère de la pièce, prit de l'ampleur, diminua. Et enfin, un formidable crescendo éclata, qui donna l'effet d'un voile qui se déchirait. Un petit globe, de couleur palpitante, se développa par saccades et explosa en l'air en gouttelettes informes qui tourbillonnèrent et redescendirent comme les fusées d'un feu d'artifice. Ces gouttelettes
se coagulèrent en petites sphères toutes de couleurs différentes, et Beïta prit peu à peu conscience d'une infinité de détails qui lui avaient jusqu'alors échappé. Elle remarqua qu'en fermant les yeux, le dessin des couleurs était plus clair, que chaque nuance, chaque variation dans la nuance avait sa correspondance sonore immédiate. Elle s'aperçut aussi qu'elle était incapable d'identifier les couleurs et qu'enfin, les globes n'étaient pas des globes, mais bien de minuscules silhouettes. Des silhouettes. Minuscules. Des petites flammes qui dansaient, qui vacillaient par myriades, qui se soustrayaient au regard et revenaient de nulle part, qui se bousculaient et se coagulaient pour former toutes ensemble une couleur nouvelle.
Bizarrement, Beïta songea spontanément aux taches de couleur qu'on voit la nuit quand on ferme les yeux assez fort, assez longtemps, sans se soucier de la douleur. Elle observait ici, devant elle, ces myriades de points lumineux en mouvement, ces cercles concentriques en voie de contraction, ces formes vagues bougeant par intervalles qu'elle avait déjà pu observer sous ses propres paupières. Mais tout était plus grand, plus varié, et chacune de ces petites taches de couleur était en fait une minuscule silhouette. Ces petites silhouettes fonçaient maintenant sur elle deux par deux, et elle leva les mains, comme pour se protéger, mais elles dégringolèrent, et elle se trouva un instant au milieu d'une étincelante tempête de neige, tandis qu'une lumière froide ruisselait sur ses épaules. Et derrière tout cela, le bruit de 100 instruments coulait, fluide et pénétrant, tant et si bien qu'elle ne parvint plus à le distinguer de la lumière. Elle se demanda si Ebling Miss voyait la même chose qu'elle. Si tel n'était pas le cas, que voyait-il d'autre? Son émerveillement commençait à passer lorsque... Elle regarda le spectacle avec une attention renouvelée. Les petites silhouettes. Était-ce bien des silhouettes? Semblaient autant de petites femmes, minuscules, à la chevelure ardente, qui tournaient et se courbaient trop vite pour que le regard de l'esprit puisse s'arrêter sur elles. Elles se tenaient en groupe en forme d'étoiles qui tournoyaient. La musique était comme un rire léger, un rire féminin ayant sa source à l'intérieur de l'oreille. Les étoiles se rapprochèrent, étincelèrent l'une contre l'autre, se développèrent lentement, et un palais sembla jaillir du sol et s'élever vers le ciel, à une vitesse hallucinante. Chaque brique était un fragment coloré, chaque couleur une petite étincelle. Chaque étincelle, un dard de lumière qui entraînait l'œil vers le ciel où se dressaient 20 minarets rehaussés de joyaux. Un tapis étincelant se déploya, tourbillonnant, et forma bientôt un réseau immatériel qui engloba tout l'espace et, de là, des traînées lumineuses surgirent et vinrent former des arbres qui chantaient au rythme d'une musique qui leur était propre. Beïta était assise au beau milieu de tout cela.